entrer dans la confidence, dans les secrets, dans les moments, dans la petite et la grande histoire des maîtres du pastis fait main, le pastis Henri Barbeau.
Et puis après, on pourra arroser notre champ. Tout ce qui est cultivé, c'est pas pareil quand même. Ça donne pas les mêmes goûts.
C'est là qu'on a les meilleures plantes et puis les plus olfactives et les plus gustatives.
Aujourd'hui, retrouvons Yves, maître distillateur, et Sébastien, maître cueilleur, et partons ramasser les plantes du pastis Henri Bardouin. Sébastien, à quel moment cueillez-vous les plantes qui donnent leur parfum méridional au pastis Henri Bardouin?
Alors essentiellement, nous cueillons les plantes entre le mois de mai et le mois de septembre. On part le matin, souvent après la rosée, histoire que les plantes ne soient pas trop humides.
Et que trouvez-vous sur place?
Alors essentiellement, la plante emblématique du coin, le thym évidemment. On en trouve de partout dans nos collines. On ramasse aussi du romarin, de la sauge, du genièvre, de la verveine aussi. Ensuite, on a également un champ à côté de chez nous. Donc dedans, on y cueille différentes espèces d'artémisia. Donc l'artémisia vulgaris qui sert pour le pastis et l'absinthe. On a aussi de l'artémisia absinthium qui sert dans l'absinthe. Et une troisième qui sert essentiellement pour les absinthes américaines qui contiennent moins de thuyone. Pour le reste, nous allons entre 3 et 15 km autour de la distillerie. Pour le thym, on va aux endroits généralement où il pousse en tapis parce que c'est plus pratique à ramasser. Donc souvent ça fait des carrés de 500 mètres carrés, c'est agréable, au moins on a tout sur place, on n'a pas besoin de trop crapahuter. Alors d'une année sur l'autre, effectivement, on choisit toujours les mêmes endroits. Hein. C'est beaucoup plus pratique parce qu'au moins, comme on l'a taillé l'année d'avant, il repousse bien fin et on n'a pas trop de bois. Parce que le bois, il donne un côté un peu trop prononcé, c'est pas agréable. Pour le reste, pour le romarin, évidemment, on crapahute un peu plus si ça pousse pas tout au même endroit, donc on va chercher un peu plus loin. Mais c'est agréable aussi. Alors le genévrier, lui, par exemple, on le récolte pour le gin. On en met aussi dans le pastis. Hein. Mais essentiellement, effectivement, c'est pour le gin parce que là, il en faut beaucoup. Donc là, on va crapahuter beaucoup plus parce qu'en plus, les baies, elles poussent pas d'une année sur l'autre. Donc souvent, c'est une année, il n'y a pas de baies. L'année d'après, elles sont vertes et l'année d'après, elles sont mûres. Donc on va attendre et on espère toujours les années où il y en aura le plus possible de mûres, évidemment. Là, j'y suis d'ailleurs allé ce week-end et il y en a beaucoup de vertes. Donc on espère bien qu'en septembre, la récolte, elle va être bien conséquente. On a de la sauge aussi qu'on ramasse. Alors ça, essentiellement, c'est des choses qu'on va ramasser chez nous. La sauge, on va la ramasser chez mes parents. Ils en ont qui poussent. Le romarin aussi, ils en ont un peu, mais pas beaucoup. Donc c'est agréable, ça permet en plus de se dire que ça vient de chez nous. Donc on le fait, je le fais, Yves le fait aussi chez lui. Hélène en ramasse aussi chez elle, de la sauge ou du romarin. Donc parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup en fait. Hein. Donc c'est très puissant. Du coup, avec ce qu'on a dans nos jardins, ben, ça suffit. Donc on est bien content d'avoir notre propre cueillette. Alors ensuite, le thym. Le thym, effectivement, là, on en ramasse beaucoup. Il nous en faut dans le pastis, mais il nous en faut dans la farigoule. C'est l'ingrédient principal de la farigoule. C'est son nom en provençal, d'ailleurs. Donc là, on va partir à au moins 6 personnes pendant 1 à 2 jours parce que ben, il faut beaucoup ramasser, là. Hein. C'est pas très lourd, donc on prend nos sécateurs, nos sacs, et on y va. Hein. Et on taille, et on taille, et on remplit nos sacs. Et donc effectivement, 2 jours, parce que ben, si on n'en a pas ramassé assez le premier jour, il faut y retourner, hein. Il nous faut la quantité. Une fois qu'on a ramassé, ben, ce qu'on va faire, c'est le barbecue chez Yves. Hein. Yves, il a une petite parcelle avec une tonnelle, une table, alors là, c'est important. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à trouver du monde pour ramasser le thym. C'est parce que les gens, ils savent qu'il y a le barbecue après. Alors ça, c'est agréable. Il nous dresse la table sous sa tonnelle, on y mange les grillades, c'est un rituel, quoi, hein, On fait ça toutes les années.
Avez-vous fait des rencontres étonnantes lors de vos cueillettes?
Alors ça, c'est incroyable. Hein. Dans la colline, on en rencontre des animaux. Alors, des sangliers, on en voit souvent. Il y en a beaucoup dans le coin. On rencontre aussi des couleuvres. La couleuvre de Montpellier. J'en ai encore vu une ce week-end, justement, en allant chercher s'il y avait du genièvre. Mais c'est impressionnant comme couleuvre. Hein. Ça fait 1,50 m. Quand on voit traverser ça devant soi, ça fait quelque chose. Après, on voit beaucoup de traces. Ça, des traces de chevreuil, de cerf et tout ça, on les voit. On les voit pas, mais on voit les traces. On sait qu'ils sont passés par là il y a pas longtemps. Après, des randonneurs, quelques-uns. Mais comme on est dans des coins souvent reculés, on voit pas grand monde. Et même pas de chasseurs, parce que c'est pas la saison de la chasse.
Quel est votre équipement L'emballage a-t-il vraiment son importance ?
Oui, ce qu'on aime, c'est essentiellement prendre des sacs en jute. Alors, on les prend de tailles différentes selon la personne qui va le porter. Mais l'avantage de la jute, c'est que ça a des grosses mailles. Donc, l'air passe bien à travers et ça permet aux plantes qu'on met dedans de respirer. Parce que sinon, en fait, quand on ramasse le thym, si on le tasse, ça va se mettre à fermenter de suite. Et donc, l'essence, elle va couler par terre et on n'aura plus rien une fois arrivé à la distillerie. C'est par exemple quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est sur les feuilles de pêcher. On va les ramasser aussi, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette, une fois qu'on les a ramassées, on met directement dans de l'alcool, parce que ça se met à fermenter dès que c'est plus sur l'arbre. C'est incroyable. Donc le lendemain, ça serait déjà trop tard. Il faut qu'on le mette directement dans de l'alcool.
Yves, avez-vous des zones de cueillette privilégiées ?
Oui, bien sûr. Pour le thym, nous allons dans la Fare. C'est une zone à côté de la distillerie qui est à peu près à 1,5 km. Cette colline, on y va tous les ans parce qu'elle est productive. Il y a des gros tapis de thym et on a quand même la permission du propriétaire qui s'appelle Dédé Alphand. Et c'était un monsieur avec qui je chasse depuis des années. Ça doit faire, 35, 40 ans que je chasse avec lui. Alors on est des bons chasseurs, excellents même, puisque quand on voit un cerf, on a plutôt tendance à le filmer plutôt que de le tuer. Et à vrai dire, depuis 40 ans que je chasse, j'ai jamais tué un seul lapin. Moi, ma passion, c'est plutôt le sanglier, on va dire. On a une meute de chiens avec mon beau-frère. Donc, on va chasser le sanglier, pratiquement que le sanglier. Et après, je suis pas un très bon chasseur parce qu'en réalité, j'aime les animaux et pour tuer un sanglier, ça me fait toujours quelque chose. Mais ça fait rien. Ce qui me plaît, c'est de crapahuter, d'être derrière les chiens que je connais très bien. Je sais quand ils sont fermes, je sais quand ils courent. Donc voilà, avec ce Dédé Alphand qui nous donne la permission de ramasser ce thym, il y a de bonnes relations depuis très très longtemps. Quand je me promène, que je vais dans la colline chasser, ma femme vient avec moi. Elle prend la caméra, le film aussi. Et quand on se promène, on sait où il y a du thym, on sait où il y a de la verveine, on saura où il y a de l'armoise, par exemple. Et surtout, on sait chez qui on est, puisqu'on connaît la région parfaitement. Donc, automatiquement, on va voir le propriétaire, on va lui dire, est-ce qu'on peut venir ramasser ça ou ça? Et en général, il nous dit pas non, surtout quand c'est de l'Artemisia vulgaris. Entre nous, c'est du chien d'arme, donc les agriculteurs sont super contents quand on va le ramasser.
À quoi reconnaissez-vous le bon coin pour telle ou telle plante ?
Eh bien, la nature du sol, l'exposition, l'altitude. Par exemple, l'artémise, elle n'aime pas l'argile. Elle adore les sols calcaires, les sols caillouteux, les sols qui drainent bien. Et puis, elle se plaît surtout dans l'altitude, au pied de l'Ure. Là, c'est là qu'on a les meilleures plantes et puis les plus olfactives et les plus gustatives. Après, nous, on a planté 1,5 hectare dans un bon sol caillouteux, là, et bien, bien safreux. Alors, 1,5 hectare, on a fait plusieurs variétés. On a commencé par 6, et là, maintenant, on est arrivé à 3. Alors, pourquoi on est arrivé à 3? Tout simplement parce qu'on a fait des plantations, on en fait des dégustations régulièrement, on écrase les plantes, on les sent pour savoir laquelle est la plus olfactive et la plus gustative. Et par élimination, on est arrivé à 3. J'espère qu'on arrivera à 2. Mais ce champ nous apporte beaucoup, puisque quand on fait ces plantes, là, on va les cueillir, on va les distiller. Alors, on va les distiller fraîches, on va les distiller sèches, pour savoir quel est le meilleur compromis des deux. Et ça nous permet de nous entraîner. Avec Hélène, on a commencé ça il y a à peu près 6-7 ans. Et on va continuer quand même à travailler sur ces races. À savoir quand même que les races que l'on plante, le plan mère ne bouge jamais. Par contre, ceux qui se replantent à côté, ils ont toujours un petit peu des différences, un peu des deux, quoi. Mais les plans mères ne bougent pas.
Avez-vous des informateurs pour trouver les bonnes zones de cueillette ?
Oui, bien sûr qu'on a des informateurs, mais bon, on revient toujours, mais on a beau critiquer les chasseurs, mais quand même, les chasseurs nous apportent beaucoup, car c'est eux qui sont dans la colline, c'est eux qui se promènent, et comme ils savent qu'on est des passionnés de ces plantes, mais bien entendu, ils nous donnent les bons coins, ils vont nous dire, t'es, j'ai vu ça aujourd'hui, ou j'ai vu ça hier, tu devrais les voir quand même, c'est peut-être intéressant. Donc voilà, c'est important qu'on ait ces gens qui nous donnent des indications. Par exemple, les anciens chasseurs qui me connaissent, même que c'est pas une période de chasse, ils vont me dire, oui, il est temps que tu ailles ramasser le thym, j'ai vu qu'il était fleuri aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est important pour nous.
Sébastien, quels sont les paramètres les plus importants pour obtenir les meilleurs végétaux ?
Alors ça, ça fait partie des secrets que j'ai appris ici. Mais je vais vous les dire quand même. Alors par exemple, pour le thym, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser que les sommités fleuries. On va éviter tout le bois de la tige, ça donnerait un goût trop prononcé. Donc on fait bien attention, évidemment, avec nos sécateurs, hein, de ne pas se couper les doigts, mais on va attraper la touffe, on va prendre juste le haut et on va couper comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir un produit de qualité, en fait. Après, pour ce qui est le reste de la sauge, l'armoise et la verveine, donc ça pousse sur une tige centrale. Alors là, on va carrément couper la tige au pied. On va les suspendre, on va les laisser sécher. Et une fois que c'est sec, là, on va les effeuiller à la main. Parce que c'est pareil, on ne veut pas le bois. Donc nous, on veut que les feuilles. Donc on va se mettre à plusieurs à effeuiller et à remplir nos sacs. Alors, ce que j'estime, c'est que nous, environ, on fait une production d'un million de bouteilles par an de pastis. En estimant les cuves que j'ai fabriquées, parce que comme je suis dans la fabrication, j'en vois passer des cuves. Et je pense que pour ça, il nous faut une bonne centaine de kilos de thym. Alors le thym, il sert pour le pastis, mais il sert aussi pour la farigoule. C'est pour ça qu'on en a besoin de beaucoup. Ensuite, il nous faut quelques tonnes d'armoise fraîche. Parce que là, c'est pareil, c'est la plante principale de notre produit, c'est celle qui donne sa structure et sa couleur, donc on en a bien besoin. Et puis, il nous en faut beaucoup, parce qu'une fois sec, eh ben, il ne reste pas grand-chose. Hein. Ça perd au moins la moitié de son poids, alors même plus des fois. Alors, on va les ramasser dans notre champ à côté, évidemment, hein, le champ qu'Yves a planté. Mais ça nous suffit pas toujours, donc on a aussi des herboristes avec qui on travaille. Ils plantent et au moins on peut aller les voir et ramasser et leur demander de ramasser ce qu'il nous manque. C'est important ça, pour avoir toujours notre quantité pour l'année. On a certaines herboristeries, donc elles sont surtout dans notre région. Hein. C'est soit la Haute-Provence, soit la Drôme-Provençale, donc c'est toujours dans le coin de la Provence. Ça c'est bien, ça permet d'avoir toujours quand même le côté du terroir. Hein. Après, pour ce qui est de la sauge, du romarin, il nous faut quelques dizaines de kilos, c'est pas énorme. Donc ça, on arrive à s'en sortir avec ce qu'on a chez nous, chez nos parents, chez nos amis, ça c'est pratique. Le genièvre. Alors ça, le genièvre, il nous en faut aussi. Alors il nous en faut pour le gin que nous fabriquons. On en met aussi dans le pastis, et là, il en faut quelques centaines de kilos. C'est plus long à ramasser parce que ça pique. Hein. Oh là là, ça c'est compliqué pour ça. Mais bon, c'est agréable, ça fait toujours des balades dans la colline, donc... On est content d'y aller, quoi. Et ça, essentiellement, en plus, je le fais chez mes parents. Ils ont quelques hectares autour de la maison et beaucoup de genévriers dessus. Alors, c'est bien pratique. Alors, une fois que c'est ramassé, ce qu'on fait, c'est qu'on a un local de séchage. Et du coup, si c'est des graines, on va les mettre sur des tables. Et si c'est des tiges, eh ben, si c'est des plantes à tiges, eh ben, on va les suspendre en bouquet. Et on va venir vérifier que ça moisisse pas. Il faut surtout pas que ce soit trop serré, parce que sinon, ça, l'humidité pourrait faire que ça moisit. Pour le thym, eh ben, on l'étale par terre et eh ben, tous les jours, on vient le remuer pour être certain que l'humidité qu'il y a dessous, elle s'évacue.
L'armoise a-t-elle toujours le même goût d'une année sur l'autre ?
Et non, ça va dépendre de la sécheresse essentiellement. Donc non, ça n'a pas toujours le même goût et du coup, on va vérifier ça avec Yves, Hélène, essentiellement Hélène, hein, qui est notre experte œnologue. Donc on va faire un essai de macération et on va voir ce que ça donne. Donc est-ce qu'il faut qu'on en mette plus, est-ce qu'il faut qu'on en mette moins? Ben ça on va déguster à plusieurs et on va voir ce qu'il faut faire hein, pour que notre produit garde toujours son goût. Donc on voit ça, et des années trop sèches, elle est jaune. Alors ça c'est pareil, si elle est trop jaune, le problème c'est que notre pastis il a des reflets verts, on veut pas des reflets jaunes. Donc on va vérifier si on peut en trouver d'autres ou si dans notre champ on a des coins où c'est qu'elle est moins jaune. Il y a eu des années où on a fait appel à des herboristes et c'était même tellement compliqué que j'ai vu passer Lucie des heures au téléphone. Ça, c'était pour trouver, parce qu'une année de sécheresse, c'est compliqué pour nous, mais c'est compliqué pour tout le monde. Et puis après, on pourrait arroser notre champ. Ça, on pourrait, mais le problème de l'arroser, c'est que c'est trop humide après aussi. Il faut que la plante, elle ait quand même le goût du terroir. Hein, quand tout ce qui est cultivé, c'est pas pareil quand même. C'est cultivé nous, mais c'est pas arrosé parce que c'est pas pareil, ça donne pas les mêmes goûts. Donc en plus, oui, il faut le savoir, c'est que de l'armoise, c'est 100 kg frais, c'est 60 kg sec, mais c'est grand maximum. Hein. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'il nous en faut.
Comment traitez-vous l'armoise après la récolte ?
Alors ça, elle est ramassée, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une plante à tige, donc on va tout couper au ras avec la tige et on va mettre à sécher, donc en bouquet. En plusieurs bouquets qu'on va faire en plusieurs fagots, on pourrait dire. Et une fois que c'est sec, eh ben, on prend une paire de gants et on y va. Hein. On tire sur la tige et on effeuille. Alors ça bon, si on a des bons gants, ça va. Il ne faut pas qu'ils soient troués parce qu'on le sent vite sur les doigts, sinon. Après, on a aussi des sacs où c'est qu'on retrouve un peu des branches broyées. Ça peut arriver selon les fournisseurs si c'est mal effeuillé. Donc on va reprendre tous les sacs et on y va, on enlève les bois. On ne veut pas de bois, nous, dedans. Ça donne le côté boisé, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc on effeuille pour avoir la qualité. Hein.
Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et rendez-vous pour l'épisode suivant avec Lucie, maître macérateur pour le pastis Henri Bardouin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.